Fetlock Jones a été mis sous les verrous dans une cabane inoccupée pour attendre son jugement. L'agent Harris lui a donné sa ration pour 2 jours en lui recommandant de ne pas faire fi de cette nourriture. Il lui a promis de revenir bientôt pour renouveler ses provisions. Le lendemain matin, nous partîmes quelques-uns avec notre ami Hillier pour l'aider à enterrer son parent défunt et peu regretté, Flynn Buckner. Je remplissais les fonctions de premier assistant et tenais les cordons du poêle. Hillier conduisait le cortège. Au moment où nous finissions notre triste besogne, un étranger loqueteux, à l'air nonchalant, passa devant nous. Il portait un vieux sac à main, marchait la tête basse et boitait. Au même instant, je sentis nettement l'odeur à la recherche de laquelle j'avais parcouru la moitié du globe. Pour mon espoir défaillant, c'était un parfum paradisiaque. En une seconde, je fus près de lui et posai ma main doucement sur son épaule. Il s'affala par terre, comme si la foudre venait de le frapper sur son chemin. Quand mes compagnons arrivèrent en courant, il fit de grands efforts pour se mettre à genoux, leva vers moi ses mains suppliantes et de ses lèvres tremblotantes me demanda de ne plus le persécuter. « Vous m'avez pourchassé dans tout l'univers, Sherlock Holmes, et cependant, Dieu m'est témoin que je n'ai jamais fait de mal à personne. » En regardant ses yeux hagards, il était facile de voir qu'il était fou. « Voilà mon œuvre, ma mère. La nouvelle de votre mort pourra seul un jour renouveler la tristesse que j'éprouvais à ce moment. Ce sera ma seconde émotion. » Les jeunes gens relevèrent le vieillard, l'entourèrent de soins et furent pleins de prévenances pour lui. Ils lui prodiguèrent les mots les plus touchants et cherchèrent à le consoler en lui disant de ne plus avoir peur, qu'il était maintenant au milieu d'amis, qu'il le soignerait, le protégerait et pendrait le premier qui porterait la main sur lui. « Ils sont comme les autres hommes, ces rudes mineurs, quand on ranime la chaleur de leur cœur. On pourrait les croire des enfants insouciants et irréfléchis, jusqu'au moment où quelqu'un fait vibrer les fibres de leur cœur. Ils essayèrent de tous les moyens pour le réconforter, mais tout échoua. Jusqu'au moment où l'habile stratégiste qu'est Wells Fargo prit la parole et dit « Si c'est uniquement Sherlock Holmes qui vous inquiète, inutile de vous mettre Martel en tête plus longtemps. Pourquoi ? » demanda vivement le malheureux fou. Parce qu'il est mort. Mort ? Mort ? Ah, oh, ne plaisantez pas avec un pauvre naufragé comme moi. Est-il mort ? Sur votre honneur, jeunes gens, me dit-il la vérité ? Aussi vrai que vous êtes là. Dit Ham Sandwich, et ils soutinrent l'affirmation de leurs camarades comme un seul homme. « Ils l'ont pendu à San Bernardino la semaine dernière, » ajouta Ferguson, « tandis qu'il était à votre recherche. Ils se sont trompés et l'ont pris pour un autre. Ils le regrettent, mais n'y peuvent plus rien. Ils lui élèvent un monument, » continua Ham Sandwich, de l'air de quelqu'un qui a versé sa cotisation et est bien renseigné. James Walker poussa un grand soupir, évidemment, un soupir de soulagement. Il ne dit rien, mais ses yeux perdirent leur expression d'effroi. Son attitude sembla plus calme et ses traits se détendirent un peu. Nous regagnâmes toutes nos cases et les jeunes gens lui préparèrent le meilleur repas que pouvaient fournir nos provisions. Pendant qu'il cuisinait, nous l'habillâmes des pieds à la tête, Hillier et moi. Nos vêtements neufs lui donnaient un air de petit vieux bien tenu et respectable. Vieux est bien le mot, car il le paraissait avec son affaissement, la blancheur de ses cheveux et les ravages que les chagrins avaient faits sur son visage. Et pourtant, il était dans la force de l'âge. Pendant qu'il mangeait, nous fumions et causions. Lorsqu'il eut fini, il retrouva enfin l'usage de la parole et, de son plein gré, nous raconta son histoire. Je ne pourrai pas reproduire ses propres termes, mais je m'en rapprocherai le plus possible dans mon récit. Histoire d'un innocent. Voici ce qui m'arriva. J'étais à Denver, où je vivais depuis de longues années. Quelquefois, je retrouve le nombre de ces années, d'autres fois, je l'oublie, mais peu importe. Seulement, on me signifia d'avoir à partir, sous peine d'être accusé d'un horrible crime, comme il y a bien longtemps dans l'Est. Je connaissais ce crime, mais je ne l'avais pas commis. Le coupable était un de mes cousins, qui portait le même nom que moi. Que faire ? Je perdais la tête, ne savais plus que devenir. On ne me donnait que très peu de temps, 24 heures, je crois. J'étais perdu, si mon nom venait à être connu. La population m'aurait lynché, sans admettre d'explication. C'est toujours ce qui arrive avec les lynchages. Lorsqu'on découvre qu'on s'est trompé, on se désole, mais il est trop tard. Vous voyez que la même chose est arrivée pour M. Holmes. Alors je résolus de tout vendre, de faire argent de tout et de fuir jusqu'à ce que l'orage fût passé. Plus tard, je reviendrai avec la preuve de mon innocence. Je partis donc de nuit et me sauvai bien loin dans la montagne où je vécus déguisé sous un faux nom. Je devins de plus en plus inquiète et anxieux. Dans mon trouble, je voyais des esprits, j'entendais des voix, et il me devenait impossible de raisonner sainement sur le moindre sujet. Mes idées s'obscurcirent tellement que je dus renoncer à penser tant je souffrais de la tête. Cet état ne fit qu'empirer. Toujours des voix, toujours des esprits m'entouraient. Au début, ils ne me poursuivaient que la nuit. Bientôt, ce fut aussi le jour. Ils murmuraient à mon oreille, autour de mon lit, et complotaient contre moi. Je ne pouvais plus dormir, me sentais brisé de fatigue. Une nuit, les voix me dirent à mon oreille, « Jamais nous n'arriverons à notre but, parce que nous ne pouvons ni l'apercevoir, ni par conséquent le désigner au public. » Elles soupirèrent. Puis l'une dit, « Ah, il faut que nous amenions Sherlock Holmes. Il peut être ici dans 12 jours. » Elles approuvèrent, chuchotèrent entre elles et gambadèrent de joie. Mon cœur battait à se rompre, car j'avais lu bien des récits sur Holmes et je pressentais quelle chasse allait me donner cet homme avec sa ténacité surhumaine et son activité infatigable. Les esprits partirent le chercher. Je me levai au milieu de la nuit et m'enfuis, n'emportant que le sac à main qui contenait mon argent, 30 000 $. Les 2/3 sont encore dans ce sac. Il fallut 40 jours à ce démon pour retrouver ma trace. Je lui échappais. Par habitude, il avait d'abord inscrit son vrai nom sur le registre de l'hôtel, puis il l'avait effacé pour mettre à la place celui de Dagget Barclay. Mais la peur vous rend perspicace. Ayant lu le vrai nom, malgré les ratures, je filais comme un cerf. Depuis 3 ans et demi, il me poursuit dans les États du Pacifique, en Australie et aux Indes, dans tous les pays imaginables, de Mexico à la Californie, me donnant à peine le temps de me reposer. Heureusement, le nom des registres m'a toujours guidé et j'ai pu sauver ma pauvre personne. Je suis mort de fatigue. Il m'a fait passer un temps bien cruel. Et pourtant, je vous le jure, je n'ai jamais fait de mal, ni à lui, ni à aucun des siens. Ainsi se termina le récit de cette lamentable histoire qui bouleversa tous les jeunes gens. Quant à moi, chacune de ces paroles me brûla le cœur comme un fer rouge. Nous décidâmes d'adopter le vieillard qui deviendrait mon hôte et celui d'Hillier. Ma résolution est bien arrêtée maintenant. Je l'installerai à Denver et le réhabiliterai. Mes camarades lui donnèrent la vigoureuse poignée de main de bienvenue des mineurs et se dispersèrent pour répandre la nouvelle. À l'aube, le lendemain matin, Wells Fargo, Ferguson et Ham Sandwich nous appelèrent à voix basse et nous dirent confidentiellement « La nouvelle des mauvais traitements endurés par cet étranger s'est répandue aux alentours et tous les camps des mineurs se soulèvent. Ils arrivent en masse de tous côtés et vont lyncher le professeur. L'agent Harry a une fousse formidable et a téléphoné au shérif. Allons, venez !» Nous partîmes en courant. Les autres avaient le droit d'interpréter cette aventure à leur façon, mais dans mon fort intérieur, je souhaitais vivement que le shérif pût arriver à temps, car je n'avais nulle envie d'assister de sang-froid à la pendaison de Sherlock Holmes. J'avais entendu beaucoup parler du shérif, mais j'éprouvais quand même le besoin de demander « Est-il vraiment capable de contenir la foule ?»« Contenir la foule, lui ? Jacques Fairfax ? Contenir la foule ? Mais vous plaisantez ! Vous oubliez que cet énergumène a 19 scalps à son actif. Oui, 19 scalps !» En approchant, nous entendîmes nettement des cris, des gémissements, des hurlements qui s'accentuèrent à mesure que nous avancions. Ces cris devinrent de plus en plus forts, et lorsque nous atteignîmes la foule massée sur la place devant la taverne, le bruit nous assourdit complètement. Plusieurs gaillards de Dalish Gorge s'étaient brutalement saisis de Holmes, qui pourtant affectait un calme imperturbable. Un sourire de mépris se destinait sur ses lèvres, et en admettant que son cœur de breton ait pu un instant connaître la peur de la mort, son énergie de fer avait vite repris le dessus et maîtrisait tout autre sentiment. « Venez vite voter, vous autres !» cria Shembly Higgins, un compagnon de la bande d'Ely. « Vous avez le choix entre pendu ou fusillé !»« Ni l'un ni l'autre !» hurla un de ses camarades. « Il ressusciterait la semaine prochaine. Le brûler, voilà le seul moyen de ne plus le voir revenir !» Les mineurs dans tous les groupes répondirent par un tonnerre d'applaudissements et se portèrent en masse vers le prisonnier. Ils l'entourèrent en criant « Au bûcher! Au bûcher !» Puis ils le traînèrent au poteau, l'y adossèrent en l'enchaînant et l'entourèrent jusqu'à la ceinture de bois et de pommes de pin. Au milieu de ces préparatifs, sa figure ferme ne bronchait pas et le même sourire de dédain restait esquissé sur ses lèvres fines. « Une allumette! Apportez une allumette !» Shadbelly la frotta, abrita la flamme de sa main, se baissa et alluma les pommes de pin. Un silence profond régnait sur la foule. Le feu prit et une petite flamme lécha les pommes de pin. Il me sembla entendre un bruit lointain de pas de chevaux. Ce bruit se rapprocha et devint de plus en plus distinct, mais la foule absorbée paraissait ne rien entendre, rien entendre. L'allumette s'éteignit. L'homme en frotta une autre, se baissa, et de nouveau la flamme jaillit. Cette fois, elle courut rapidement au travers des brins de bois. Dans l'assistance, quelques hommes détournèrent la tête. Le bourreau tenait à la main son allumette carbonisée et surveillait la marche du feu. Au même instant, un cheval déboucha à plein galop du tournant des rochers, venant de l'antre de direction. Un cri retentit. « Le shérif !» Fendant la foule, le cavalier se fraya un passage jusqu'au bûcher. Arrivé là, il arrêta son cheval sur ses jarrets et s'écria « Arrière ! Ça ne vaut rien !» Tous obéirent à l'exception du chef, qui se campa résolument et saisit son revolver. Le shérif fonça sur lui, criant « Vous m'entendez, espèce de forcené ? Éteignez le feu !» et enlever aux prisonniers ses chaînes. » Il finit par obéir. Le shérif prit la parole rassemblant son cheval dans une attitude martiale, il ne s'emporta pas, et parla sans véhémence, sur un ton compassé et pondéré, bien fait pour ne leur inspirer aucune crainte. « Vous faites du propre, vous autres. Vous êtes tout au plus digne de marcher de pair avec ce gredin de Chadbelly Higgins, cet infâme reptile qui attaque les gens par derrière et se croit un héros. Ce que je méprise par-dessus tout, c'est une foule qui se livre au lynchage. Je n'y ai jamais rencontré un homme à caractère. Il faut en éliminer 100 avant d'en trouver un qui ait assez de cœur au ventre pour oser attaquer seul un homme même infirme. La foule n'est qu'un ramassis de poltrons, et 99 fois sur 100, le shérif lui-même est le roi des lâches. » Il s'arrêta évidemment pour savourer ses dernières paroles et juger de l'effet produit. Puis il reprit « Le shérif qui abandonne un prisonnier à la fureur aveugle de la foule est le dernier des lâches. Les statistiques constatent qu'il y a eu 182 shérifs l'année dernière qui ont touché des appointements injustement gagnés. Au train où marchent les choses, on verra bientôt figurer une nouvelle maladie dans les livres de médecine sous le nom de mal des shérifs. Les gens demanderont « Le shérif est encore malade ?» Oui, il souffre toujours de la même maladie incurable. On ne dira plus « Un tel est allé chercher le shérif du comté de Rapalso, mais un tel est allé chercher le froussard de Rapalso, mon Dieu. Qu'il faut donc être lâche pour avoir peur d'une foule en train de lâcher un homme. » Il regarda le prisonnier du coin de l'œil et lui demanda « Étranger, qui êtes-vous et qu'avez-vous fait ?» « Je m'appelle Sherlock Holmes et je n'ai rien à me reprocher. » Ce nom produisit sur le shérif une impression prodigieuse. Il se remit à haranguer la foule, disant que c'était une honte pour le pays d'infliger un outrage aussi ignominieux à un homme dont les exploits étaient connus du monde entier pour leur caractère merveilleux et dont les aventures avaient conquis les bonnes grâces de tous les lecteurs par le charme et le piquant de leur exposition littéraire. Il présenta à Holmes les excuses de toute la nation, le salua très courtoisement et ordonna à l'agent Harris de le ramener chez lui, lui signifiant qu'il le rendrait personnellement responsable si Holmes était de nouveau maltraité. Se tournant ensuite vers la foule, il s'écria « Regagnez votre tanière, tas de racailles !» Ils obéirent. Puis, s'adressant à Chadbelly, « Vous suivez-moi. Je veux moi-même régler votre compte. Non, gardez ce joujou qui vous sert d'arme. Le jour où j'aurai peur de vous sentir derrière moi avec votre revolver, il sera temps pour moi d'aller rejoindre les 182 poltrons de l'année dernière. » Et, se disant, il partit au pas de sa monture, suivi de Chadbelly. En rentrant chez nous, vers l'heure du déjeuner, nous apprîmes que Fetlock Jones était en fuite. Il s'était évadé de la prison et battait la campagne. Personne n'en fut fâché, au fond. Que son oncle le poursuive s'il veut, c'est son affaire. Le camp tout entier s'en lave les mains. Le journal reprend. 10 jours plus tard, James Walker va bien physiquement et son cerveau est en voie de guérison. Je pars avec lui pour Denver demain matin, la nuit suivante. Quelques mots envoyés à la hâte d'une petite gare. En me quittant ce matin, Hillier m'a chuchoté à l'oreille. Ne parlez de ceci à Walker que quand vous serez bien certain de ne pas lui faire de mal en arrêtant les progrès de son rétablissement. Le crime ancien auquel il a fait allusion devant nous a bien été commis, comme il le dit, par son cousin. Nous avons enterré le vrai coupable l'autre soir. L'homme le plus malheureux du siècle, Flynn Buckner. Son véritable nom était Jacob Föhler. Ainsi, ma chère mère, ma mission est terminée. Je viens d'accomplir mon mandat. Sans m'en douter, j'ai conduit à sa dernière demeure votre mari, mon père, qu'il repose en paix.